Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elle s'attable.
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable. Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour, bienvenue pour ce cinquième épisode de la deuxième saison d'Elle s'attable. Aujourd'hui dans notre podcast, nous recevons Vérane Frediani. Vérane Frediani est quelqu'un que je ne connais pas très bien, mais que je vais découvrir avec vous lors de cet épisode. J'ai eu la chance de la rencontrer quelquefois via des amis, et notamment je pense à une rencontre dans un très très bon restaurant parisien qui était Le Mermoz. Et à l'époque, la chef était une femme et s'appelait Manon Fleury. Vérane est quelqu'un d'assez étonnant. C'est une jeune femme qui incarne une forme de métissage, qui se distingue dans des registres très variés, le cinéma, le documentaire, le journalisme. Elle va même nous parler de cuisine. Bonjour Vérane.
Bonjour Danielle.
Elle s'attable.
Alors, comme vous l'entendez, il y a un peu de bruit. Nous sommes dans le restaurant Etsy, dans le 18e à Paris, qui est un restaurant grec tenu par une jeune chef, Michaela, extrêmement talentueuse. Et je pense qu'en ce moment, sont en train de se préparer des beignets aux épinards, de la moussaka et autres délices auxquels on goûtera peut-être ce soir. Alors, Vérane, d'abord petit 1, vous avez une histoire particulière. Vous êtes marseillaise de cœur. Française, mais votre vie vous a emmené loin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu ?
Bon, tout d'abord, je me considère comme marseillaise. Hein. Je suis née à Marseille, j'ai grandi à Marseille, et puis j'ai toute ma famille à Marseille aujourd'hui. Une famille qui vient bien sûr de Corse et d'Italie, donc c'est un mélange, comme nous tous à Marseille. Mais on est tous profondément marseillais et marseillaises. Donc même si aujourd'hui j'habite à Londres, je me sens avant tout marseillaise. Grâce, on peut le dire, grâce au confinement, à la pandémie, j'ai passé 2 fois 4-5 mois à Marseille, ce qui m'a permis de pondre un livre finalement bien plus fourni que celui que j'avais imaginé à la base.
Lorsqu'on a préparé cette émission, on a un petit peu échangé toutes les deux, et très vite est venue cette notion essentielle pour vous et qui, je pense, est essentielle aujourd'hui dans notre univers au sens large, mais dans la cuisine également, c'est l'idée du métissage. Mmh. Que nous sommes tous le fruit de métissage, oui. Et que d'une certaine façon, Marseille incarne peut-être cette idée du métissage et de l'enrichissement de la différence?
Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, Marseille fait sens. On était souvent critiqués, montrés du doigt dans les médias. On parle toujours de ce qui ne va pas à Marseille. Et oui, il y a des problèmes. Mais finalement, le côté populaire de Marseille, le fait qu'on ne soit pas tous finalement à l'aise financièrement, est une force aujourd'hui, ou du moins on se rend compte que ça peut l'être. Et Marseille attire aujourd'hui, comme toujours, des gens qui viennent redémarrer une activité, redémarrer une tranche de vie, et notamment dans la restauration. Je pense que Paris est très saturé et très cher, et on commence à attirer des jeunes chefs qui ont envie de se lancer et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. C'est une ville des possibles où finalement on peut se lancer, on peut prendre des risques. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour arriver à Marseille et tenter quelque chose. Notamment au niveau des femmes, parce que finalement, elles quittent... Alors, il y a deux situations. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas passées par une école de cuisine et qui professionnalisent finalement un savoir familial, qui deviennent chefs. Et puis, il y a toutes celles aussi qui sortent des écoles de cuisine, qui font des stages dans des brigades étoilées et qui souffrent, et qui veulent monter leur restaurant, et finalement qui veulent le faire très jeune. Et cette prise de risque-là...
Qui sont prêtes à travailler, oui. Mais à leur manière.
Oui, et donc ça fait plaisir de voir une Laetitia Viss, par exemple, à Marseille, ouvrir son restaurant.
Vous avez un parcours assez étonnant, école de commerce, donc a priori, la boîte à outils, tête bien faite, etc. Vous atterrissez chez Canal+, où vous vous retrouvez à présenter le journal du cinéma. Bon, c'est pas forcément attendu. Et il y a quelques années, donc vous avez quitté Canal, vous avez monté une boîte de production avec votre mari et associé, Franck Ribière, et vous êtes mis à produire des documentaires et des films, et notamment l'un d'entre eux qui a fait beaucoup de bruit et qui nous a beaucoup intéressés, qui s'intitulait « À la recherche des femmes chefs » en 2017. Alors pourquoi cette quête ?
Le documentaire s'est imposé comme une évidence finalement, parce qu'on savait manier une caméra, on a appris à enregistrer du son, plus ou moins... bien, mais on est parti la caméra dans le sac, tourner un documentaire sur le steak d'abord, sur la viande rouge.
Qui était Steak Révolution.
Qui était Steak Révolution, à la recherche des meilleurs steaks du monde, qui a fini sur Netflix. Donc c'était en plus pour nous finalement une validation.
On a perdu aujourd'hui en France la notion de ce qu'est un bon steak. On sait plus ce que c'est finalement.
Alors, il faut aussi peut-être expliquer aux consommateurs...
Qu'est-ce que c'est que la bonne viande ?
Qu'est-ce que c'est que la bonne viande ?
La viande rouge, c'était le sujet de Franck. Dans sa famille, il y avait des éleveurs. Donc, on était parti là-dessus, mais c'était son envie. Et j'ai pensé à Elena Arzac et je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours voulu faire un truc pour les femmes qui a un impact, mais la gastronomie et la cuisine, c'est un très bon sujet. Là est venue l'idée de faire à la recherche des femmes chefs, qui a été finalement ma première réalisation.
Mon père décède, on perd la troisième étoile en 95, et là, j'ai pas le choix, quoi. C'est soit je mets la clé sous la porte, soit j'y vais, soit je m'implique, soit je donne mes tripes, soit il n'y a plus de maison.
Vous dites que vous étiez, Vérane Frediani, une féministe relativement discrète, qui aviez des énervements, on va dire, de salon, oui. Et que c'est seulement vers l'âge de 40 ans que vous êtes devenue une féministe militante.
Oui.
Est-ce que nous devons, nous toutes femmes, être un minimum militante ?
Ah oui, je pense. Mais comme tout homme devrait être militant aussi. Enfin, être féministe, c'est finalement défendre l'égalité, l'égalité des chances, des droits, des libertés. Je pense qu'on devrait tous l'être. Mais c'est très difficile de s'affirmer en tant que féministe. Oui, je l'ai toujours été quelque part, mais j'ai aussi été victime de misogynie du quotidien et on met du temps à s'en rendre compte. Même dans ces lectures, on a du temps, enfin, on a un manque de recul là aussi. On a été formaté pour trouver ça normal, en fait, que les héroïnes, finalement, ne décident pas vraiment de leur destin et soient toujours là en train de suivre ou d'être peinées. Enfin, je pense que, d'autant plus à Marseille, on a cette culture méditerranéenne ultra présente qui fait que dans les années 80-90, c'était un petit peu compliqué de se rebeller. On se rebellait. Ça menait à quoi finalement ? Pas à grand-chose. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, la ville est très féminine aujourd'hui. C'est que les femmes s'expriment. Elles ont pris la parole, mais il y a un vrai changement.
Ce livre est donc venu notamment des confinements.
Oui.
Puisque, comme tout le monde, vous avez été impacté par cette expérience nouvelle qui a, pour la première fois de l'histoire, touché tous les êtres humains simultanément. Alors, c'est un ouvrage assez gros. Il y a quasiment 300 pages et dans lequel il y a environ 60 portraits de Marseillais et de Marseillaises. Mm-hmm. Est-ce que vous avez réussi à être à la parité ou pas dans cet ouvrage?
Oui, c'était mon but. Il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Ouais. C'est vraiment un livre de rencontres, mais oui, c'est aussi une suite au travail que j'ai fait sur les femmes chefs. Aujourd'hui, dans tout ce que je fais attention à représenter les femmes et à leur tendre le micro, à être sûr qu'elles aient un espace pour s'exprimer. Et dans ce livre, c'était d'autant plus facile que Marseille a beaucoup de femmes qui travaillent dans la gastronomie aujourd'hui.
Et alors, ce que j'ai trouvé assez génial dans ce bouquin, c'est que c'est un livre qui part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on y croise aussi bien une décoratrice que des sandwichs de flan de pois chiches. Que, alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette insulte « va te jeter au goud », je n'exclus pas de m'en resservir. Beaucoup d'adresses. Enfin, c'est une espèce de pêle-mêle dans lequel on pioche.
Oui. Je voulais mettre aussi tout le monde sur un pied d'égalité. Je suis très fière, en fait, que dans ce livre, il y ait aussi bien le comptoir des Beaux-Arts et l'orchestra algérienne, la galette algérienne, qu'une recette infaisable d'Alexandre Mazia.
Oui, on peut le dire, infaisable est le mot.
Mais c'est l'idée, c'est de montrer, c'est de montrer à quel point tout, le champ des possibles est vaste.
Elle s'attable.
Vous disiez tout à l'heure que le milieu de la cuisine est un milieu qui concentre et amplifie, qui exacerbe les problèmes rencontrés par les femmes dans le reste de la société.
Je pense qu'une équipe en cuisine, c'est une micro-société. Ça fonctionne comme un peu une classe d'école aussi, parfois. Et on retrouve tous les stéréotypes, les clichés, dans le fonctionnement, en fait, d'une brigade ou d'une équipe mixte, mais qui, bien souvent, n'est pas encore très mixte, en fait. Donc, on peut imaginer être, par exemple, dans une classe de 30 élèves où il n'y aurait que 2-3 filles. Ce serait compliqué. Donc, je crois que dans les brigades aujourd'hui, quand il n'y a qu'une fille, deux filles, trois filles, c'est effectivement un concentré de problèmes qu'on retrouve dans n'importe quel pan de
situation
la société
autre.
Ou de la situation. Voilà. Ensuite, bien entendu, en général, les cuisines sont exiguës. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, ça concentre les problèmes et ça les amplifie. Et effectivement, le jour où on réglera ce problème dans les cuisines et la gastronomie française, qui en plus fait partie de ce qu'on vend à l'étranger, c'est-à-dire c'est la vitrine de la France, une fois qu'on aura réglé un peu, ou beaucoup même, les problèmes à l'intérieur des cuisines et de la gastronomie française, il y aura un effet, un impact sur toute la société. C'est-à-dire que je pense que tous ces grands hommes-chefs n'ont rien à y gagner à se retrouver entre eux sur la couverture des magazines ou dans les événements à l'international. C'est montrer une image complètement ringarde de la France, ça nous fait du mal à tous et toutes. Ils se font du mal à eux-mêmes, en fait. Alors certains l'ont compris et font du... Enfin, s'achètent une image en se collant maintenant...
Du woman washing.
Oui, du woman washing en se collant à des femmes chefs. Mais en même temps, ça ne me dérange pas qu'il y ait des images fortes qui soient montrées où les femmes aient un espace pour s'exprimer. C'est-à-dire que bien entendu que c'est toujours rageant d'être la seule femme invitée dans un festival. En même temps, prenons le micro et parlons.
Et clamons.
Clamons et puis on a des points de vue à défendre, notamment sur notre vision de ce que doit être la gastronomie. Oui, oui. Je ne dis pas qu'elle est forcément différente. On a une approche différente. On a d'autres choses à prouver en fait en devenant des professionnels dans la gastronomie.
Mmh. Véronne Frediani, vous êtes une des référente aujourd'hui en France et même à l'international sur les femmes chefs grâce à votre travail, vos livres, etc. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 5 à 10 ans que vous travaillez sur ces sujets, la situation a évolué ou est en train d'évoluer?
Je pense honnêtement qu'il y a du mieux et que le travail qu'on a effectué avec Esther El Payani, avec Maria Canabal, avec des chefs aussi, bien sûr, qui se sont bougés, il y a effectivement eu un impact, oui, notamment au niveau des réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes chefs se connaissent entre elles, peuvent s'appeler, et il y a une sorte d'entraide qui est en train de se mettre en place. Je suis très optimiste là-dessus, parce que la sororité, c'était un vrai problème. L'entraide entre femmes, dans tous les domaines, je trouve que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, regarde même ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes deux femmes en train de parler de Marseille. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on se donne l'une l'autre la place de s'exprimer. On sait créer cette place, mais elle existe et on se connaît, on se rencontre et on se parle. Et tout ça, il y a quelques années, notamment moi quand j'ai commencé mon documentaire, c'était en 2000.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2014-2015, je rencontrais des femmes très isolées qui ne connaissaient pas le nom d'autres femmes chefs. Et aujourd'hui, oui, elles pourraient te donner beaucoup de noms. Et pendant le premier confinement, notamment quand j'étais encore à Londres, on a organisé des Zooms où on était une dizaine, une douzaine de femmes, surtout des chefs, mais deux, trois journalistes, une attachée de presse. Et on a échangé trois fois une bonne heure sur déjà les problématiques liées à la fermeture des restaurants, mais aussi sur ce qu'il fallait, sur les terrains sur lesquels il fallait aller après. Parce que pour une fois, les femmes avaient du temps. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Bon, les chefs n'ont jamais de temps, mais en général, les femmes sont quand même sous-financées, donc elles ont des équipes plus petites et sont au four et au moulin. Donc là, pour une fois, on avait le temps d'échanger. Ça a été formidable et ça a créé des liens, ça a créé du lien. Ça, c'est une vraie nouveauté.
Est-ce que la situation française des femmes chefs est différente de la situation internationale ou pas? Ou est-ce que finalement les constats que vous faites, Véran Fridiani, sont les mêmes un petit peu partout dans le monde?
Non, en France, il y a le poids de l'histoire. Mais malheureusement, de l'histoire que les hommes ont écrite. Parce que des femmes chefs, en France, il y en a eu, il y en avait. Aussi bien au temps des mères, effectivement. Mais dans les années 60, 70, 80, il y en avait aussi. On ne se rappelle jamais de Paulette Castin à Condrieu qui avait 2 étoiles. Donc tout ça, j'aimerais bien, et on va s'y employer, je pense, avec Esterelle, réécrire un peu l'histoire de la gastronomie française. Parce que pour l'instant, comme beaucoup d'histoires... Elle a été écrite par les hommes, pour les hommes. Mais c'est aussi une façon, c'est une stratégie aussi qu'on connaît. Au moment de la nouvelle cuisine, il a fallu aussi faire en sorte que la nouvelle cuisine brille, que ces chefs deviennent des stars.
Légitimer cette nouvelle manière de cuisiner.
Mais aussi, je pense qu'il fallait même légitimer le métier de chef. Donc, il a fallu l'opposer à quelque chose. Pour s'élever, on a écrasé. C'est une stratégie connue dans plein de domaines. Donc, on a écrasé la cuisine dite de bonne femme. Et avec, on a mis même les chefs femmes qui, elles, n'avaient rien demandé, étaient professionnelles de la profession, cuisinaient magnifiquement bien, utilisaient les meilleurs produits, formaient des jeunes chefs, hommes et femmes, prenez des apprentis, mais on les a écrasés en disant non, mais alors nous, on est là-haut, elles sont tout en bas. Et ensuite, bien entendu, les écrits n'ont fait que confirmer cela, on les a effacés purement et bonnement. Donc ça, c'est une spécificité française. Si vous partez en Amérique du Sud, en Argentine, par exemple, il y a beaucoup de femmes chefs aujourd'hui. Alors oui, c'est nouveau, mais c'est aussi parce que la gastronomie argentine aujourd'hui explose. Et donc, il y a des hommes et des femmes qui arrivent. Donc elles ont peut-être un peu moins... ce problème de légitimité.
On va rentrer dans une année particulière, là, puisqu'on va avoir une élection présidentielle l'année prochaine en France. C'est toujours des moments où il y a des sortes de bouillonnement dans la société, dans la société française. Il y a beaucoup de questionnements autour de l'autre, de l'altérité au sens large. Est-ce que vous pensez que le métissage sauvera le monde?
Ah oui, bien sûr. Pense. C'est une évidence pour moi. Aujourd'hui, je suis très inquiète du fait qu'on nous interdise de voyager aujourd'hui, ou du moins qu'on fasse en sorte qu'une partie de la population ne voyage pas. Parce que finalement, de toute façon, ceux qui ont les moyens de voyager continueront de voyager. Mais aujourd'hui, on nous fait peur et du coup, on va tous se replier sur nous-mêmes. Alors oui, c'est très bien de redécouvrir sa ville, son quartier, mais si on s'arrête de bouger, on va avoir peur de l'autre. C'est ça, pour moi, c'est très dangereux. On l'a vu même en étant confinés, en se parlant à travers des écrans. Je trouve que les relations étaient devenues beaucoup plus directes aussi par Zoom. Le temps de la patience a ses limites très vite. Et du coup, je trouvais que même les conversations devenaient... peut-être parce que je suis marseillaise et que j'aime parler et tout ça. Et j'étais très frustrée en Zoom. Donc oui, je pense que le métissage, c'est très important. Il faut l'encourager. Et Marseille, en ce sens, aujourd'hui, montre la voie. Alors, on peut toujours dire qu'il y a des problèmes à Marseille entre les différentes communautés. Oui, je ne suis pas naïve au point de penser qu'il n'y a pas de problème. Mais on se rencontre encore beaucoup à Marseille, notamment au centre-ville.
Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette d'une Marseillaise qui aime le métissage, Véran Frediani?
Du zaatar partout, même sur la pizza, par exemple. La pizza, c'est vraiment la pâte sur laquelle vous posez votre culture. Donc moi, j'aurais tendance à mettre un bout de filatelle et de la brousse. Mais je peux aussi mettre de la viande, je peux aussi mettre du zaatar, de la poutargue. Donc oui. Et puis bon, au-delà de la pizza, ça peut être aussi une galette algérienne. Et je vais manger ma ratatouille avec. Je pense que c'est vraiment ça, la cuisine marseillaise, s'il y en a une. Parce que c'est un gros mélange.
Est-ce que vous diriez que la cuisine, enfin que la nourriture joue un rôle essentiel dans votre vie?
Oui, oui, oui. Pour moi, honnêtement, quelqu'un qui cuisine pour moi, c'est quelqu'un que j'aime. Tout de suite. Je suis tombée amoureuse de mon mari en ouvrant son frigo. En voyant en fait tout ce qu'il avait dedans et en sachant qu'il allait me faire mon petit déjeuner ou cuisiner un dîner et tout ça... je l'ai reçu, c'était pour moi de l'amour, en fait, que je recevais, et j'étais prête, du coup, à en donner beaucoup. Donc, oui.
Est-ce que vous avez un plat fétiche? J'ai lu quelque part que c'était un gratin de pâtes.
C'est parce que je l'ai cuisiné. C'est un des rares plats que je cuisine. C'est un gratin de pâtes du Cipriani à Venise.
Très chic.
Oh, c'est très chic, mais en même temps, c'est un souvenir, effectivement, amoureux. Du coup, je le refais moi-même, puisque je ne peux pas aller au Cipriani comme ça.
En tout cas, pas tous les soirs, malheureusement.
Oui, j'ai quelques souvenirs comme ça, où on a dépensé un loyer en se disant « Bon, ben, on a passé un bon moment, mais on a un petit problème quand même dans un mois. » Et du coup, mon plat fétiche, oui, les pâtes, la pizza restent majeures, bien sûr, et c'est très, très, très marseillais de répondre tout ça. Mais mon champ des possibles s'est vraiment élargi grâce à la cuisine de mon mari, parce que lui cuisine tous les jours, finalement. Quand j'ai produit Thelma, Louise et Chantal avec Catherine Jacob, c'est une fan de cuisine aussi, qui cuisine très très bien. Et donc je suis allée très très souvent au marché avec elle sur la place des Fêtes le dimanche, dans le 19e. Et on passait le dimanche comme ça chez elle à manger. Et elle rigolerait en m'écoutant là, parce que elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris. Beaucoup appris. J'étais vraiment... Enfin, pour elle, j'étais une blague, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de légumes que je ne connaissais pas. Parce que je suis issue d'une famille italienne-corse. Donc, c'est cette cuisine-là que j'ai mangée. Et puis, on était invités, après, dans d'autres familles, pour manger des paellas et des couscous. Mais par contre, les cuisiner moi ou les faire à la maison, c'est venu progressivement. Et les légumes aussi, ils sont venus progressivement dans ma vie, j'avoue.
Elle s'attable.
Alors, merci pour cette transition, Véran Frediani. Vous êtes vous-même maman d'une petite Valentina qui a 7 ans à peu près. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui pour essayer de lui ouvrir les ailes plus tard en tant que femme?
Déjà, j'ai fait quelque chose qui m'a demandé du courage vis-à-vis des autres mamans, je l'ai laissé s'habiller comme elle le voulait. C'est-à-dire qu'en rentrant dans un magasin de vêtements, je lui ai jamais dit « Non, ça c'est pour les garçons ». Avant qu'elle sache lire, elle allait spontanément vers le rouge, le bleu, les gros logos de super-héros. Donc on s'est toujours retrouvés en fait dans les rayons de vêtements pour petits garçons. Y compris les slips. Parce que finalement, les petites fleurs, les paillettes, ça l'intéressait pas beaucoup. Et donc, elle se dirigeait vers les slips bien rouges, bien verts, oui. Et donc, plusieurs fois, on a ouvert. Je lui dis, OK, on le prend. Je savais ce qu'il y avait dedans. On le prend. Puis on ouvrait. Puis elle dit, mais maman, regarde là, il y a une poche.
Fais-je de cette fente?
Puis je dis, mais on s'en fout, tu peux le mettre et tout ça. Ça m'a valu, de la part d'autres mamans, alors anglaises, hein, de me dire que Valentina voulait être un garçon. Et je trouvais ça tellement con. Parce que c'est nous, les parents, qui finalement posons des limites et des interprétations sur ses enfants. Donc voilà, ce que j'ai fait surtout, c'est de ne lui mettre aucune barrière. Et aujourd'hui, elle a les cheveux longs, mais elle a un maillot short. Parce que voilà, c'est vrai, la question, quand elle m'a dit « mais pourquoi il faut se baigner en culotte ?», j'avais pas de réponse en fait. Pourquoi un bikini ? Pourquoi je suis mieux en short ? Bah, en fait, si t'es mieux en short, reste en short, bien sûr. Donc, c'est elle aussi qui m'a libérée quelque part de certaines limites. Donc voilà, j'ai fait ça. Et ce que j'aimerais lui dire, c'est surtout vis pour toi. Ne vis pas pour les autres.
Est-ce que vous diriez, en conclusion, Véran, Frediani, que les femmes peuvent changer le monde à travers nos assiettes ?
Bien entendu. Déjà, la gastronomie peut changer le monde. Bien entendu. Et c'est d'ailleurs l'essence même de mon travail. Je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas chef. J'utilise la gastronomie pour faire avancer la société, avancer, c'est prétentieux, mais pour bousculer un peu la société et la faire se questionner. Comme vous le disiez tout à l'heure, je pense réellement que la cuisine concentre bon nombre de problèmes qu'on connaît tous et toutes dans nos vies, notamment le travail en couple, la définition de la famille, qu'est-ce qu'une famille en fait ? Et est-ce qu'on peut chacun s'exprimer dans sa famille ? Est-ce qu'on peut avoir un couple en cuisine et pas un en cuisine qui s'éclate et l'autre qui a dû faire une croix en fait sur sa passion ? C'est formidable de travailler en salle, mais c'est souvent des femmes qui voulaient être cuisinières en fait au départ qui le font. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'elles auraient imaginé pour leur futur. Donc je pense oui que les femmes dans la gastronomie et en s'emparant de la gastronomie ou du moins d'une partie de la gastronomie vont faire changer les mentalités. Une fois qu'on respectera la femme derrière le comptoir en pensant que c'est la chef, ça changera les mentalités partout.
Et donc la société.
Ouais. Et j'encourage d'ailleurs tout le monde à être acteur de ce changement, hein, c'est-à-dire aller manger chez des femmes chefs. Prenez-vous en photo avec ces femmes chefs, remplissez Instagram avec ces femmes chefs, faites le savoir, soyez fiers d'avoir acheté une bonne bouteille chère chez une femme chef. Elles ont besoin aussi de vous en tant que consommateurs et consommatrices. On ne peut pas toujours penser que quand on va chez une femme chef, on va dépenser moins. Parce que c'est ça aussi. Et en ce sens, ça rejoint la problématique qui est qu'en général, si on va manger français chez un homme, on est prêt à payer beaucoup plus cher que si on mange une autre cuisine. Et encore plus si cette autre cuisine est faite par une femme.
Bon, eh bien, vaste programme. Merci Véran. Pour tous ceux qui voudraient aller plus loin. Alors d'abord, prenez un billet pour Marseille, foncez-y. Autre option, faites comme moi,
vous allez venir.
Oui, je vais venir. Je vous promets que je vais venir. Disons avant fin 2022.
Oula, non mais...
Non mais autre possibilité.
C'est une promesse.
Autre possibilité, plongez-vous dans Marseille cuisine le monde, oui. Aux éditions La Martinière de Véran Frediani. Vous y croiserez de la daube de poulpe, des raviolis afghans, qu'est-ce qu'on a, d'une terrine de cochon, de l'eau de tomate, des tatoués, des turbans, beaucoup de sourires.
Des recettes comoriennes, des recettes congolaises, vietnamiennes.
Voilà, des photos de la ville, des portraits, des interviews. Enfin, c'est vraiment un document complet, une sorte de carte d'identité en profondeur et avec le cœur.
Puis ça permet de mettre aussi Marseille dans son assiette, où que l'on soit.
Voilà, merci.
Manger donc. Marseille.
Manger Marseille, foncez Marseille. Merci beaucoup Véran Frediani.
Non, merci à vous. Moi, ça me passionne de parler de Marseille.
Et merci à tous pour avoir écouté ce podcast. On est comme les chefs, nous aussi, on aime qu'on nous note et qu'on nous félicite. Donc, donnez-nous des étoiles, les commentez, n'hésitez pas. Et rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast d'Elsa Table.
Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elsa Table, en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.